On va dérouler le tapis rouge des Oscars de Hollywood. Allez, c'est une dernière fois dans ce bain de culture avant de réenfiler le costume. Ce sera pour les Césars en France. Les Césars, c'était la fin de ce mois de février. Des Césars qui se profilent, on le sait, hein, on le sent sur fond de malaise. Qu'en est-il notamment de la parité homme-femme? Il y a aussi d'autres gros problèmes qui sont dénoncés dans ces instances cinématographiques. Il faut que cela change. Ils sont tous les deux agriculteurs, jeunes agriculteurs, Mamoun Benani et Jules Rouffio, mais ils ont une passion commune, la photographie. Alors ils ont pris les chemins de traverse pour suivre sur les routes du Maroc, les grands taxis. C'est une sorte de cri d'amour avant que leur silhouette Mercobenz ne disparaisse du paysage marocain. Cela donne une exposition de photos, c'est en ce moment à Casablanca. Et puis nous avons rendez-vous à partir de la semaine prochaine avec l'art contemporain africain dans un bel écrin, la Mamounia de Marrakech qui accueille pour la troisième fois la foire 1.54, 1 pour continent, 54 pour le nombre de pays africains. C'est une foire fondée tout d'abord à Londres, ensuite à New York par Touria El Glaoui, une passionnée. Nous avons rendez-vous avec elle ce dimanche. Bienvenue, nous sommes ensemble pendant une heure.
Midi, un bain de culture avec Florence Blanc. De culture, cinéma.
C'était le week-end dernier, tapis rouge bien sûr, tapis rouge à Hollywood, à Los Angeles, 92e cérémonie des Oscars, une cérémonie suivie par les télévisions du monde entier. Les paris évidemment étaient ouverts et cette édition a réservé un véritable triomphe au film Parasite. Nous sommes avec Aurore Dumserre.
Je comprends pas pourquoi t'as loupé le concours d'entrée aux Beaux-Arts.
Oh, ferme-la.
S'il y avait un Oxford des faussaires, ta sœur serait major de promo.
Parasite a décroché 4 statuettes et pas des moindres. Meilleur film international, meilleure réalisation et meilleur scénario original.
Tu vois cette fille ? Tu vas devenir son nouveau prof d'anglais.
Mais j'ai zéro diplôme.
Consécration donc pour cette satire de la société sud-coréenne, de ses inégalités plus précisément, à mi-chemin entre la comédie et le thriller. Parasite, qui avait notamment déjà remporté la Palme d'Or, vient de faire mentir les pronostics qui voyaient un sacre de 1917 de Sam Mendes. Une consécration aussi pour le réalisateur Bong Joon-ho, le sud-coréen, beau joueur lorsqu'il reçoit le prix du meilleur réalisateur.
That quote was from our great Martin Scorsese. So.
Bong Joon-ho rend hommage aux autres nominés, deux monstres sacrés, Martin Scorsese et Quentin Tarantino. Todd Phillips était également nominé pour Joker.
Ma mère, elle me dit tout le temps de sourire, de faire bonne figure. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Mettre du rire et de la joie dans ce monde.
Et là, les bookmakers ne s'étaient pas trompés. Joaquin Phoenix remporte le prix du meilleur acteur. Côté rôle féminin, c'était bien plus ouvert et c'est finalement la Texane Renée Zellweger qui l'emporte. Un nom que beaucoup associent toujours au rôle qu'il a fait connaître, Bridget Jones. Ce n'est pas du tout le même registre que l'Oscar récompense. Avec Jodie, Renée Zellweger signe une performance poignante sur une enfant star déchue, Judy Garland.
Pardon d'arriver si tard.
Mademoiselle Garland.
Pas de manière. Appelez-moi Judy.
Nous avons dû libérer votre suite.
Libérer ma suite ? Vous l'avez relâchée dans la nature ?
Il semble que vos notes ne nous aient pas été réglées.
Nous sommes à Londres dans les années 60. L'artiste est mondialement célèbre grâce au magicien d'Oz. Renée Zellweger, elle, est méconnaissable. Elle est affublée d'une perruque, de prothèses. Enfin, un tout autre visage qui a étonné lors de cette soirée, c'était celui de Brad Pitt qui a signé la séquence émotion. Il remporte son premier Oscar dans une catégorie interprétation, à savoir le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans Once Upon a Time in Hollywood. En français, Il était une fois à Hollywood. Et Brad Pitt, au pupitre, a voulu partager le début du conte. C'était il y a près de 30 ans avec le film Thelma et Louise du réalisateur Ridley Scott.
Je suis un peu pris de court. J'aime pas trop regarder le passé, mais je me souviens que mes parents m'emmenaient au cinéma. Gina, Ridley qui m'ont donné ma première chance. Il y a plein de gens formidables que j'ai rencontrés au long de ma carrière. Et c'est grâce à eux que je suis ici aujourd'hui. Voilà, Il était une fois à Hollywood.
Voilà, Brad Pitt hein, qui s'est souvenu en effet sur cette scène des Oscars le week-end dernier, son arrivée à Hollywood sur un véritable coup de tête, sa rencontre aussi, impromptue, inopinée, mais en tout cas ça a marché avec la grande comédienne Gina Davis et bien sûr le réalisateur Ridley Scott qui lui ont donné cette chance, cette première chance, le film Thelma et Louise, sorti il y a quand même près de 30 ans. Allez, petit flashback justement sur Média avec un extrait de la bande originale du film. Voici Marianne Faithfull.
Keep ringing. And she sat there.
Marianne Faithfull est la bande originale du film Thelma et Louise. Dans ce bain de culture, un petit tour sur les longues routes de l'Arizona avec ses comédiennes Suzanne Sarandon et Gina Davis, célébrées justement par Brad Pitt. C'était son premier film, le film qu'il a fait connaître. Thelma et Louise, célébrée donc par Brad Pitt quand il a reçu son Oscar, le premier d'ailleurs. Alors que la sélection justement des Oscars 2020 a été une nouvelle fois critiquée cette année pour avoir fait une belle place aux hommes blancs, eh bien en France, l'Académie des Césars va bientôt instaurer une parité homme-femme. Actuellement, en effet, seuls 35% des membres de l'Académie sont des femmes. Il va falloir changer tout ça, Charlotte Deroy.
Aujourd'hui, l'Académie des Césars compte près de 4700 membres, 65% d'hommes et 35% de femmes. Son président, Alain Terzé, affirme vouloir opérer une révolution culturelle pour atteindre la parité. Le collège des votants va s'ouvrir massivement à 700 ou 800 femmes supplémentaires. Cette réforme de l'organisation devrait être validée au printemps par une assemblée extraordinaire et s'appliquer dès la fin de l'année. Un tournant pour cette vieille institution très critiquée ces derniers temps, avec notamment cette polémique qui a débuté fin janvier lors de la conférence de presse où les nommés ont été dévoilés par la maîtresse de cérémonie, Florence Foresti.
Pour le César de la meilleure adaptation maintenant, Roman Polanski pour Je suis J'accuse.
Lapsus ou non, le film de Roman Polanski, J'accuse, décroche 12 nominations, un record, alors que le réalisateur est visé par une nouvelle accusation de viol, de quoi déclencher les foudres des associations de défense des droits des femmes et la colère de la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, Marlène Schiappa. Pas qui s'exprimait sur BFM TV.
Je suis très choquée par cette nomination. Je m'interroge en fait sur le signal que le cinéma français adresse aux femmes et notamment aux femmes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles.
La cérémonie des Césars aura lieu à la fin du mois, le vendredi 28 février. D'ici là, le climat reste très tendu, mais le président de l'Académie l'affirme, il souhaite se battre pour continuer à faire des Césars la plus belle vitrine du cinéma.
Alors bien sûr, une belle vitrine où l'on fait le ménage, visiblement, puisqu'il y a deux jours, et ça c'est le véritable coup de tonnerre dans le ciel du 7e art français, la direction des Césars a donc annoncé une démission collective à la suite de cette lettre ouverte à l'initiative du mouvement Oser le féminisme pour dénoncer la présence du dernier film de Roman Polanski. Mais ce qui a vraiment définitivement discrédité cette cérémonie, 45e, eh bien C'est la Tribune, publiée lundi dernier dans le journal Le Monde. Tribune qui reproche à l'Académie alors beaucoup de choses. Tout d'abord, des dysfonctionnements, une opacité des comptes, des statuts qui n'ont pas évolué depuis très longtemps et qui reposent encore et toujours sur cette fameuse cooptation. Une tribune signée par au moins 400 personnalités, comme l'actrice Marina Foïs.
Transparence, démocratie, parité, diversité, mixité.
Et puis Omar Sy, lui aussi, a signé.
C'était un truc, un peu entre soi. J'ai l'impression que c'était un peu un truc qui devait se régler entre membres de l'Académie.
Et enfin, le réalisateur Michel Hazanavicius.
L'idée, c'est de dire qu'il y a 4700 membres de cette Académie qui votent, qui payent, qui cotisent pour voter. Et qu'ils ne sont pas représentés de manière démocratique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voix au chapitre pour tout l'ensemble des décisions qui sont prises.
Voilà, donc la déception, véritable tollé, difficile hein, pour la direction évidemment de l'Académie de rester de marbre. Démission donc annoncée le 28 février. Ce sera à l'issue de la 45e cérémonie des Césars. Ensuite, plus rien ne sera jamais pareil.
Midi, un bain de culture avec Florence Blanc.
On va continuer à parler de cinéma. Dans ce bain de culture, un film un peu atypique, en tout cas c'est ce que dit sa réalisatrice, la réalisatrice d'Un divan à Tunis, film sorti cette semaine. C'est le premier long métrage de Manel Labadie. C'est une jeune psychiatre qui décide de quitter la France pour retourner exercer dans son pays, en Tunisie. Voilà donc pour le pitch. Manel Labadie a fait des études de sciences politiques, a travaillé dans une banque, elle a tout plaqué pour réaliser des films, des courts tout d'abord. Elle rêvait, mais oui, d'une comédie pour, dit-elle, baisser la garde face aux émotions. Elle a proposé le rôle principal à l'actrice Golshifteh Farahani. Celle-ci a tout de suite dit oui à la lecture du scénario. La suite, c'est avec Anne Mignard.
C'est l'histoire d'une jeune femme, Selma Derviche, la trentaine, qui quitte la France pour ouvrir son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Un choix audacieux.
Quel travail, il n'y a pas de travail ici.
J'installe mon cabinet sur le toit. Un cabinet de psychanalyse, Tony Fitoni.
T'as vu ces brochettes de névrosés là que j'ai au salon? Avec moi, tu deviens millionnaire.
Tu vas pas faire venir les fous chez nous?
C'est des patients que je recevrai chez moi.
Et
tu crois que ça va marcher?
Oui, les gens ont besoin de parler.
Ah, ça c'est sûr. Surtout nous, les Arabes, on parle beaucoup. Mais quand elles viennent ici, les clientes, elles parlent. Mais au moment de payer, elles ressortent, elles ont un brushing beau comme le tien, ou des mèches, ou tu vois. Et de chez toi, les gens, quand ils sortent avec quoi?
Pas facile de faire de la place pour Freud. Les quiproquos s'enchaînent. Au final, les liens se tissent, la parole se libère. Mais problème, quand Selma commence à trouver ses marques, il lui manque une autorisation.
Bonsoir. Je peux voir votre autorisation de libre pratique?
Mon dossier, je veux dire, il va passer, vous croyez?
Ah, Inch'Allah, Inch'Allah.
S'il vous plaît, oui ou non?
Mais encore, Inch'Allah.
Vous l'avez compris, nous sommes dans une comédie, un choix assumé par la réalisatrice qui signe ici son premier long métrage. Manel Labadie était invité sur France Culture.
quand on décide de traiter de cette partie du monde arabe, du Maghreb, c'est un genre qui est rarement ou peu utilisé et qui pourtant permet de dire beaucoup de choses, permet, je dirais, de sortir de cette surpolitisation, on va dire, de cette zone. Et j'avais envie d'utiliser les outils du cinéma, de la fiction et de la comédie pour avant tout raconter des trajectoires personnelles, universelles. Le politique, évidemment, il est là, il est en creux, il est en toile de fond dans cette histoire. Mais je voulais avant tout mettre la lumière sur des personnages.
Et ces messages politiques qu'on trouve en creux, ils sont nombreux. La schizophrénie d'un pays après la Révolution, les tabous de la société, et puis cette femme moderne, marginalisée car trop indépendante. Et pour l'interpréter, Manel Labidi n'a pas fait appel à n'importe qui. Goldshifteh Farahani, elle se glisse à merveille dans la peau de cette femme forte qui décide, malgré l'incompréhension générale, de rentrer au pays. Car à Tunis, la France se fait rêver. Un sentiment que comprend très bien l'actrice qui, née en Iran, est aujourd'hui française.
Moi, je dis toujours, en Iran, on était libre. C'est très libre, mais sous les manteaux, comme dans les sous-sols. On était très libre, on faisait la fête et tout ça. Et ici, petit à petit, j'ai réalisé que je peux enlever ces manteaux. Et je ne vais pas être jugée pour ce que je suis. C'est drôle, la France, c'est ma mère adoptive. Et je l'aime des fois plus que les enfants biologiques. C'est vraiment ça, c'est que pour moi, je vois toujours ce parti-là qui est rempli et pas ce parti-là qui est vide.
Voilà sur Médien, la bonne parole de Goldshifteh Farahani, désormais actrice franco-iranienne, puisqu'elle a quitté son pays pour exercer son métier. Il y a 12 ans, en effet, elle avait créé la polémique en Iran. Elle apparaissait non voilée sur le tapis rouge de Hollywood. C'était pour le film Mensonge d'État. Elle était aux côtés de Ridley Scott, aux côtés aussi de Leonardo DiCaprio. Goldshifteh Farahani était ensuite rentrée dans son pays. Mais voilà, en guise de punition, elle ne pouvait plus en sortir. Elle avait décidé de s'échapper alors vers la France où elle est devenue un véritable symbole de liberté. C'est Bain de Culture, on se retrouve dans un instant. Merci d'être avec nous ce dimanche, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. Everybody, 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 close your eyes, ascend, go up. Everybody, close your eyes, ascend, and go up. Everybody, go up.
like a shower room filled with helium.
Dans un instant, on ira voir un petit peu comment s'installe cette foire 1.54, ce salon international dédié à l'art contemporain africain. C'est la troisième fois que cette foire va se dérouler à Marrakech. C'est la semaine prochaine et nous serons avec sa fondatrice. C'est à venir après cette aventure. Une aventure qui nous appelle tout de suite avec ces silhouettes indissociables que l'on croise sur les routes marocaines. Les fameux grands taxis. On les croise sur toutes les routes, les plus petites, les plus difficiles, les plus escarpées, que ce soit dans des paysages de montagne, sur des pistes de désert ou même près des plages. Ces grands taxis qu'ont suivi Mamoun Benani et Jules Rouffieu. Alors tous les deux sont agriculteurs à la base, mais voilà, ils ont une passion, la photographie. Et ce sujet les a rassemblés, donc les a rapprochés, ce sujet sur les grands taxis. Ils exposent en ce moment leurs photos à Casablanca, c'est à la CDA Galerie. Casablanca, justement, c'est le point de départ d'un véritable road trip vers le Moyen Atlas, aux portes du désert, à Ouarzazate. Il y a Agadir, il y a la route aussi qui longe l'océan Atlantique vers Jof El Asfar, une sorte de grand cimetière de ces taxis. Nous allons suivre à la trace tout de suite. On va commencer par Mamoun Benani.
L'idée est venue il y a à peu près 3 ans ou 3 ans et demi. J'étais sur la route côtière entre Casa et Mohamedia, au niveau de la plage d'Ain Sba, et j'avais vu des taxis, un troupeau de vieux taxis Mercedes qui étaient entreposés en face du concessionnaire Dacia. Et je me suis arrêté pour prendre cette photo que j'ai tout de suite partagée avec mon ami Jules, qui connaît très bien le Maroc. Et en discutant, en fait, on s'est rendu compte que les taxis étaient en train de disparaître du paysage marocain et qu'il était temps pour nous de partir à leur trace au Maroc, voilà.
Alors, les grands taxis au Maroc, évidemment, quand on dit ça au Maroc, tout le monde a dans la tête cette Mercedes donc 240, hein, trapue, on sent que c'est robuste, que ça peut monter haut dans les montagnes, que ça peut aller près des plages. On a l'impression que c'est insubmersible, cette Mercedes, ce grand taxi. Et pourtant, eh bien, vous avez fait cette route qui va vers leur cimetière, d'une certaine façon, pour arriver donc dans ces grandes aciéries, hein, qui récupèrent et qui transforment ensuite leur carcasse du côté de Jof El Asfar. C'est ça ce que vous avez fait. Vous avez
exactement.
Un petit peu suivi
exactement,
cette
exactement.
Route.
On a essayé de faire un circuit du Maroc des terroirs. On a fait plusieurs régions. Et comme chaque région a son propre taxi, sa propre couleur, on les a suivis sur leur champ d'action jusqu'à les retrouver aux aciéries d'El Jorf. Ils sont détruits et transformés en acier pour faire d'autres travaux avec.
Alors Mamoun, si jamais je suis votre voyage, vous êtes donc parti de Casablanca, vous partez vers le Moyen Atlas, après il y a Merzouga, il y a Agadir, il y a Essaouira, sa fille, la vallée du Safran, je ne l'ai pas mis dans l'ordre. Quelles sont les images, entre guillemets, de ces grands taxis qui vont vous rester le plus dans la tête?
En fait, on a fait le reportage en plusieurs fois. Il y a différentes saisons aussi. Et on les a fait en taxi, en voiture, donc où on était complètement libre et on attendait les taxis passer. On l'a aussi fait à vélo. On a voyagé à vélo pour prendre le temps d'observer le paysage et de voir les taxis arriver doucement. Et on l'a fait aussi en taxi, à bord de taxi en faisant du stop, on va dire. L'image qui nous reste...
Les images, marquée, en pluriel.
Les images. Bah, c'est difficile de choisir parce que elles ont toutes leur place dans le désert où le taxi en fait n'a pas de limite, où il roule sur des pistes, où en fait il ouvre le territoire rural des communautés qui sont un peu retranchées des villes et qui accèdent à travers ce taxi parce qu'il n'y a aucun autre moyen de locomotion
de
pour eux que le grand taxi.
Alors Mamoun Benani, vous n'étiez pas tout seul, vous étiez avec Jules Rouffio, votre collègue, collaborateur, complice de ce voyage. Alors Jules, quelles images vous allez garder en fait de ces 3 années de voyage, presque des voyages parfois difficiles?
Difficile, oui, parce que on est toujours dans l'attente d'un taxi, donc il y a des moments où on peut attendre plusieurs heures au bord de la route. Ça nous a appris la patience, essentiellement, parce que comme il vous a dit, on était souvent sur le bord de la route à attendre que des taxis passent. En fait, on choisissait le paysage et on attendait le taxi. Mais il y a des routes qui sont très, très peu empruntées. Donc ça nous arrivait d'attendre plusieurs heures.
Et voilà. Et puis après, j'imagine que c'est un petit peu triste, ce cimetière de taxi. Elles attendent en fait d'être détruites, ces carcasses.
Elles attendent d'être recyclées, disons
oui.
Ça comme ça.
C'est, détruites et recyclées.
Ça donne un peu d'espoir parce que... Détruites et recyclées parce que c'est vrai qu'en fait, on aime bien la vieille mécanique et tout ce qui marche... En fait, qui tourne comme une horloge. Et c'est vrai que ces voitures-là, ça fait 30 ans qu'elles sont sur le circuit, qu'elles sont facilement réparables, qu'elles sont partout, les pièces sont partout et qu'elles ont prouvé, en fait, leur bonne foi au Maroc. Et de les voir disparaître comme ça et arriver par camion entier dans une aciérie, c'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur.
Un petit pincement au cœur. Merci en tout cas à vous deux pour cette exposition à la galerie CDA de Casablanca. Ce sera donc jusqu'au 11 mars.
Midi, bain de culture avec Florence Blanc. Now is the day, time to forget comes. Leave far away.
Let's go.
Talisco sur Médien dans ce Bain de Culture. Nous allons aussi nous intéresser maintenant à la mésaventure de ce musicien malien, Balaké Sissoko. Il a perdu ce qu'il fait vibrer dans sa vie, sa kora. Perdu car après une tournée de 2 semaines aux États-Unis, une tournée récente, eh bien, son instrument de musique a été découvert en 1000 morceaux après un voyage en avion. Retour sur les faits ce matin dans Bain de Culture, c'est avec Gaëtan Plenet.
C'est la musique de Balaké Sissoko. Alors si vous ne connaissez pas, c'est un très grand musicien malien, quelqu'un de très respecté qui tourne dans le monde entier. Bref, la référence dans l'art de manier la kora. Alors la kora, c'est cet instrument traditionnel mandingue, un instrument un petit peu entre la harpe et le luth. Le mieux, c'est encore de laisser Balaké Sissoko vous présenter son instrument.
Mon instrument, il s'appelle kora, qui vient de l'Afrique de l'Ouest. Les zones mandingues, mais il est partout et maintenant. Donc ça se fabrique avec une calebasse, la peau c'est peau de bœuf, le bois sur des palétins, le corde c'est le fil de pêche, à l'origine c'était du boyau des antilopes, il y avait une corde et puis c'est la tonique.
Un instrument complexe, donc, qui est finalement le personnage central de l'affaire. Je résume, Balaké Sissoko termine une tournée aux États-Unis, rentre en France et là, il retrouve sa kora en pièces détachées. C'est un véritable drame, car c'est une kora sur mesure qui sonne comme aucune autre. Balaké Sissoko est dépité. Écoutez-le, il est au micro de nos confrères de RFI.
C'est énervant, parce que pour moi, c'est un sabotage, quoi. C'est un instrument sur mesure aussi, hein. On ne peut pas avoir plusieurs. Moi, ma kora, c'est ma vie. Là, je le connais par cœur. J'ai pas les mots, quoi. Pour moi, c'est la première personne de ma famille. Oui, parce que tout ce que j'ai en train de faire là, c'est grâce à lui. C'est comme une divorce forcée, quoi. Voilà.
Un divorce forcé, c'est en substance ce qu'il écrit sur Twitter, car il publie un post quand il arrive à Paris et trouve sa kora dans cet état. Et il joint son message 2 photos, celle de l'instrument, comme je disais, en pièces détachées, et puis un message des douanes américaines. Le service en charge de la recherche des explosifs regrette les dégâts, avec cette devise malheureuse qui fait beaucoup réagir les internautes. La sécurité intelligente fait gagner du temps. Un coupable qui était peut-être un petit peu trop facile à trouver, hein, avec le scandale, les douanes américaines ont fait des recherches, assurent qu'elles n'ont pas ouvert l'étui de l'instrument. Résultat, on se pose à présent des questions sur l'attitude de la compagnie aérienne. Mais voilà, l'histoire a déjà pris une certaine dimension. Le gouvernement malien demande réparation aux États-Unis. C'était samedi dernier, moins d'une semaine après la découverte du musicien. Mais bizarrement, le lendemain, le ministère de la Culture de Bamako retire ce document de ce site, explique que c'est un faux. Mais ce n'est pas finalement cette amorce de crise diplomatique le plus important. Non, ce qui me semble le plus pertinent, c'est bien cette question. Est-ce qu'on aurait fait ça à un Stradivarius, ce violon ou violoncelle très célèbre qui tient son nom du luthier italien qui les fabrique ? C'est une passionnée américaine qui a très justement mis les pieds dans le plat. Lucie Duran, cette spécialiste, pose un regard très juste, à mon avis, sur cette affaire. Est-ce qu'on aurait fait ça à un musicien blanc jouant d'un instrument classique ? Pour elle, il s'agit d'une agression injustifiée, oui, triste, oui, mais probablement non volontaire, un symptôme de l'ignorance culturelle qui met en danger les meilleurs musiciens d'Afrique.
Un instrument unique, impossible évidemment à réparer. Un instrument perdu à jamais pour le joueur malien Balaké Sissoko. Perdu, envolé, cassé au cours de ce voyage en avion à la suite de sa tournée aux États-Unis. On va prendre la direction maintenant de Marrakech où l'on prépare la foire 1-54, foire d'art contemporain africain, 1 pour le continent, 54 pour les pays d'Afrique. Une foire qui a vu le jour grâce à Touria El Glaoui, sa fondatrice, foire qui a débuté entre New York et Londres et qui sera à Marrakech et sera pour une troisième édition la semaine prochaine. Nous avons plus de détails avec nous et sa fondatrice, bien sûr.
Bain de culture avec Florence Blanc.
Touria El Glaoui, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes avec vous pour cette foire internationale de l'art africain 1-54, troisième année à Marrakech, donc ça va commencer dans peu de temps. Ça a déjà eu lieu, je le disais, à Londres, à New York. C'était une petite question un petit peu pour vous piquer au vif, mais est-ce que vous avez l'impression d'être à la maison au Maroc ? Est-ce que ça vous apporte quelque chose évidemment de plus ? Et qu'est-ce que ça apporte justement à cette foire internationale d'être à Marrakech pour la troisième fois ?
Alors, la réalité, c'est que depuis la création de 1-54 en 2013, pour nous, il était vraiment instrumental de revenir sur le continent africain. Il a été évident qu'on a analysé plusieurs villes avant de venir à Marrakech, mais je dois dire que Marrakech nous a tout à fait séduit, non seulement parce que c'est comme vous dites à la maison, mais c'est surtout qu'elle possède une scène artistique vraiment très dynamique, peut-être une des plus dynamiques du continent africain. Donc il était très important pour nous de trouver une ville qui, d'une façon ou d'une autre, permettait un accès facile aux collectionneurs étrangers de venir, ainsi que d'attirer les collectionneurs, bien évidemment, marocains, et ils apprécient en fait de pouvoir passer un week-end en découvrant de l'art, mais aussi d'accès facile.
Vous avez sélectionné une vingtaine de galeries, elles proviennent de 10 pays. La question est difficile évidemment, comment vous faites pour sélectionner au bout de ces nombres d'années, de mois où vous connaissez les gens, où vous leur demandez de venir, le coup près tombe, vous n'en choisissez que 20 de ces galeries, comment vous faites ?
C'est très difficile. Nous choisissons sous dossier ce qui nous est présenté. Donc, il y a une date d'application pour toutes les galeries qui participent à la foire. Et je dois dire qu'on est très sélectif. Et c'est par rapport justement aux galeries qui présentent un programme, qui ont un rôle de développement de la scène artistique contemporaine dans leur pays, qui ont un regard aussi sur l'extérieur, comment promouvoir leurs artistes à l'étranger aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont prises en considération. Pour le coup, Marrakech et par exemple New York, qui sont nos deux plus petites foires comparées à Londres, il est très important aussi de renouveler beaucoup la sélection. Tout ça parce que les gens, quand ils viennent, se rappellent effectivement des programmes des galeries. Il est très important qu'on ait 10 nouvelles galeries qui se renouvellent et qui proposent un programme complètement différent.
Alors, on a parlé des galeries, il y a les artistes, évidemment. C'est une question un petit peu, peut-être là aussi, difficile sur notamment certains artistes à accéder justement à la visibilité. On sait que vous êtes là pour les aider, mais il y a aussi des pays en Afrique où il y a des troubles sociaux, politiques, des pays beaucoup plus pauvres que d'autres, je pense au Soudan, la Guinée-Bissau, le Mali, la RDC. Certains de ces artistes ont évidemment plus de mal à se faire connaître, à travailler, donc à être reconnus. Est-ce que là, vous êtes là aussi pour les aider, justement ?
Alors, je suis là tout à fait pour les aider, mais on va dire que dans leur voyage, du développement de leur carrière, j'interviens un peu à la fin. C'est-à-dire que le développement de l'artiste, sa visibilité, comment il est arrivé à faire cette connexion avec, en général, la galerie qui va le représenter, qui peut être de son pays ou de l'étranger, est un bout de chemin qu'il doit faire un peu tout seul. Mais j'ai aussi beaucoup de cas d'artistes qui ont été découverts complètement par Facebook ou par Instagram, par des galeries américaines ou par des collectionneurs. Donc, je dois dire que c'est sûrement plus difficile, mais je dois dire que du coup, pour un artiste africain, il est très très dur d'avoir un visa, mais dans tous les pays d'Afrique. Donc ça aussi, c'est une barrière qui, justement, peut-être d'autres artistes en Europe, aux États-Unis n'ont pas. Mais contrairement à peut-être quelques années auparavant, les réseaux sociaux ont permis un vrai développement de visibilité.
La Foire Internationale 1-54, c'est donc du 20 au 23 février. Comment est-ce qu'on voit que c'est un succès ? C'est aux ventes qui vont se faire ? C'est-à-dire, encore une fois, c'est le prix des sculptures, des peintures, de ce que vous proposez. Comment vous dites « Ah, ça a été un succès cette année ?»
Le premier signe, parce qu'on est une plateforme commerciale, c'est la demande des galeries qui ont participé de vouloir revenir. Parce que si jamais ils ne vendaient pas, ils ne reviendraient pas. La deuxième façon de voir, c'est les discussions avec les galeries qu'ils ont vendues. La foire a été rentable, ils ont des coûts pour participer. Donc pour eux, avoir une foire rentable, c'est-à-dire qu'ils aient vendu assez pour être positif, on va dire, d'avoir payé tous leurs coûts et d'avoir assez pour partager avec leurs artistes les profits en plus, on va dire, de leur investissement de base. C'est-à-dire ils ont besoin de payer des tickets d'avion, ils ont besoin d'un hôtel quand ils viennent à Marrakech, ils ont besoin de participer, de payer leur stand. Donc une fois que tous ces coûts-là sont couverts, on va dire, par une foire, par rapport aux ventes qu'ils ont fait, plus la visibilité par rapport aux artistes, rencontrer des collectionneurs, toutes ces choses-là, ça fait partie du succès d'une foire. Donc par exemple, moi j'ai des galeries qui des fois ont vendu moins que prévu, ou moins que ce qu'elles auraient aimé, mais par contre, elles ont rencontré 20 nouveaux collectionneurs qu'elles n'auraient jamais rencontrés. Pour elles, c'est une foire qui a été réussie, parce que c'est des relations qu'elles vont commencer à la foire, mais qu'elles vont continuer à développer et qui vont leur permettre de sûrement dans le futur présenter d'autres artistes, ces collectionneurs qui leur achèteront des œuvres.
Et les collectionneurs se pressent à 1,54. Ils viennent tous, nombreux.
Alors, en fait, on aime bien, c'est pas facile, vous savez, parce qu'on attire les collectionneurs locaux, mais aussi beaucoup de collectionneurs étrangers. Et je dois dire qu'un collectionneur en règle générale, il a souvent l'embarras du choix. D'aller dans différents pays, d'aller s'intéresser à différentes scènes culturelles. Donc la concurrence en termes de, on va dire, de foires et de salons internationaux d'art contemporain est très vaste. Par exemple, juste avant nous, on a une foire à Los Angeles qui est très prisée. Après nous, il y a une à Madrid qui est très connue et d'un niveau international où tout le monde va. Donc de trouver sa place dans le calendrier de foires internationales est pas forcément évident, même pour les gens qui connaissent Marrakech d'un point de vue touristiques, qui sont venus plusieurs fois, quand ils découvrent Marrakech sous cet angle-là, est aussi une nouvelle découverte pour eux.
Voilà, nous sommes convaincus. Merci Touriel Glaoui. Voilà, cette foire internationale de l'art contemporain à partir du 20 février prochain. Merci beaucoup.
Au revoir.
Voilà, un beau rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de nos programmes. On se retrouve la semaine prochaine sur Métiers.
Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. C'est ok, je suis fragile, presque sans défense. Ne crois pas que c'est futile, c'est ici que tout commence. Quand dedans ça papillonne, ça s'agite, que ça cogne, je me défile et je m'étonne. Toi, tu crois que je brille, que je monte, ouvre tes yeux grands. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse. Comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas.